Bienvenue sur Une Histoire à part, le podcast qui permet d'échanger, de se confier ou de faire le point sur sa vie amoureuse quand on vit à l'étranger. Je m'appelle Pauline, moi-même expatriée à Montréal depuis plus de 4 ans, et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui nous concerne tous, l'amour. Des enjeux qu'on peut rencontrer aux différences culturelles, on aborde vraiment tous les aspects d'une dating life en tant qu'expatriée. Toutes les 2 semaines, je recevrai un ou une invitée qui me parlera de sa perception de sa vie amoureuse depuis qu'il ou elle vit au Canada et à Montréal plus précisément. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
Salut Annabelle!
Salut Pauline.
Ben, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de prendre le temps pour venir sur le podcast.
Ben, merci à toi.
C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai la chance de recevoir une professionnelle. Donc Annabelle, toi tu es sexologue et psychothérapeute. Donc ça va être super intéressant, je pense aujourd'hui ce sur quoi on va parler. Comme tu le sais, je commence toujours mes podcasts par la petite question d'introduction. Après tu pourras te présenter bien sûr et tout. Mais c'est ça. Toi, quel est le premier plat que tu mangerais en sortant de prison?
Mais tout d'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Vraiment, c'est un plaisir. Puis, j'ai réfléchi à ta question quand tu m'avais envoyé le courriel. Puis, tu sais, en ce moment, j'ai vraiment une obsession avec les soupes au porc haché avec la sauce chili Sichuan.
Oh my God, c'est hyper précis.
C'est très, très précis, mais vraiment, j'ai une obsession ces temps-ci, peut-être parce qu'il fait froid.
Mais c'est ce que j'allais dire, oui. Parce que ça sent le bon plat d'hiver réconfortant.
Oui, exactement. Je pense que c'est ça que je mangerais direct.
Ah bah parfait, j'ai jamais goûté, mais ça me tente bien.
C'est excellent.
Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire, toi, ce que tu fais, d'où tu viens, ton parcours, puis ta profession?
Oui, donc comme tu l'as dit, je suis sexologue et psychothérapeute. Donc j'ai mon cabinet privé tout près d'ici à Montréal, sur l'île là, directement en fait, depuis 2019 environ, oui. Avec ma collègue Alexandra, on a le bureau ensemble, puis on exerce la psychothérapie depuis 2019. Donc c'est vraiment... on fait de la thérapie individuelle et de la thérapie de couple, tout dépendant l'expertise et la formation de chacun. Mais moi, j'ai l'approche en TCC, donc ça veut dire cognitivo-comportemental,
d'accord,
et l'approche systémique qui est utilisée avec les couples. J'exerce au privé depuis 2019 et je suis aussi présente à une clinique qui s'appelle la clinique Pelvisanté, sur la rive sud de Montréal, à Brossard, qui est spécialisée en tout ce qui est santé pelvienne. Donc précisément, là, ça ressemble à les douleurs génito-pelviennes, les dysfonctions sexuelles chez les femmes, chez les hommes. Donc on traite ça aussi beaucoup en parallèle avec des physiothérapeutes en rééducation périnéale. Donc je fais partie de cette clinique-là qui est interdisciplinaire aussi. Ça vient un peu équilibrer... le fait d'être un petit peu plus autonome en bureau.
Je comprends. Ouais, t'as le meilleur des deux mondes presque.
Ouais, exact. Puis au bureau, mais au fil des années, j'ai développé mon expertise aussi parce qu'on peut pas être... on peut pas nécessairement manier tout... les sujets, ni toutes les thématiques, ni toutes les clientèles. Ça peut être une bonne chose, en fait, de se spécialiser. Et moi, c'était vraiment au niveau de la clientèle dite racisée, là, donc pour les personnes non blanches spécifiquement, qui veulent traiter d'enjeux autant au niveau de trauma intergénérationnel racial ou de trauma racial, point. Ça peut être aussi beaucoup des enjeux interculturels en relation de couple, des impacts du racisme systémique sur l'estime de soi, sur la gentilité sexuelle même. Ça peut être très, très précis.
C'est très large aussi. Hein. Enfin, oui. J'imagine que c'est beaucoup de sujets à traiter, ça, mais c'est tellement intéressant.
Oui, vraiment. Donc, on a une expertise qui se développe au fil des années, donc c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, comme on discutait tantôt un peu plus tôt ensemble, on fait de la psychothérapie, donc je fais partie de l'ordre des psychologues et des sexologues. Donc, on fait de la psychothérapie, mais on a l'expertise en santé sexuelle. Donc, ça nous permet de faire des plans de traitement et d'aller plus en profondeur que si on était peut-être juste au niveau de la relation d'aide. Quoique la relation d'aide est super utile, vraiment, mais parfois, on peut peut-être avoir besoin de creuser en profondeur davantage.
Hein. Ah, super, c'est génial. Et ça fait combien de temps que tu exerces maintenant?
C'est ça, depuis 2019.
OK, ouais, parfait, oui, c'est ça. Et justement, depuis que tu as commencé un peu à travailler en tant que sexologue et psychothérapeute, est-ce que toi, tu as trouvé que la sexualité a évolué plus particulièrement chez les jeunes, tu sais, génération un peu Y et Z, donc est-ce que tu as vu un changement depuis que tu as commencé là, en 2019?
Oui, ben déjà en 2019, je me souviens d'avoir été surprise de la proactivité des jeunes et des jeunes couples dans leur réflexe d'aller consulter. Ah. Je voyais déjà un clivage un peu entre les personnes qui consultaient, qui étaient plus âgées que ces générations-là, et ces générations, les milléniaux, puis après
génération c'est ça, Z.
Oui, Z. Puis ceux-là, en fait, ils étaient beaucoup plus préventifs. En fait, plutôt qu'attendre peut-être d'être au pied du mur en mode divorce ou en crise ou en détresse, il y avait déjà une sensibilisation à la psychothérapie, à la santé mentale et sexuelle. Donc, j'ai vraiment remarqué que pour certains, il y avait des jeunes couples, là, ça pouvait faire 3 mois, 6 mois qu'ils étaient ensemble, déjà ils venaient en thérapie pour ne pas cristalliser des enjeux ou des problématiques entre eux. Donc ça, je trouve ça super beau. Là.
Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est hyper positif finalement de prendre le problème assez rapidement. Et c'est vrai que moi-même, j'ai l'impression que... Il y a le fameux tabou un peu, j'avais l'impression que c'était un peu tabou d'aller voir un professionnel, que ce soit un psychothérapeute, un psychologue ou un sexologue. Que j'ai l'impression que ça s'est vachement plus démocratisé ces dernières années aussi, ouais. C'est, puis on ose y aller, puis on ose le dire, c'est pas grave. Et puis au contraire, c'est même mieux d'en parler et puis d'avoir des conseils extérieurs.
Ah oui, vraiment, là, au niveau de... Je ressens presque aucun stigma là, de la part des générations...
Milléniaux.
J'oublie tout, je me mélange toujours. Ouais. Mais oui, dans ces générations-là, c'est très rare que je vais sentir un peu le tabou ou la fausse croyance un peu que de consulter voudrait dire qu'on est faible. Ça, je l'entends vraiment, vraiment moins. Donc, il y a une belle ouverture puis une belle proactivité à consulter tôt.
Mais ça, c'est super, c'est génial. Et ben, en ce sens aussi, il y a une étude qui est sortie, j'imagine que tu as dû en prendre connaissance récemment, par Chiara Piazzetti, qui est professeure au département de sociologie de l'UQAM, sur les configurations relationnelles idéales. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai reçu pas mal de messages de la part d'expatriés qui me témoignent, en fait, depuis qu'ils vivent à Montréal, qu'ils ont eu envie d'essayer de plusieurs choses, d'expérimenter, et notamment le couple ouvert. Oui. Et en fait, cette étude, elle révèle que on accorde plus d'importance à l'exclusivité romantique qu'à l'exclusivité sexuelle, qu'on soit en couple, monogame ou non, ou célibataire. Donc, la conclusion, c'est qu'apparemment, les couples semblent de plus en plus ouverts à vivre de nouvelles expériences qui pourraient enrichir leur vie intime. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'on assiste à un peu une révolution de l'amour, une révolution sexuelle ? C'est quoi ta vision sur ça?
Oui, ben, je pense que l'étude a tout à fait raison. Il y a une distinction plus nette entre l'amour et la sexualité. Peut-être qu'avant, en lien avec le mariage, on mettait un peu tout ça dans la même boîte. Mais maintenant, on arrive très bien à distinguer quels sont nos besoins rattachés à l'amour et lesquels sont rattachés à la sexualité. Et les deux n'occupent pas la même fonction. Ma relation amoureuse n'aura pas le même, ni la même symbolique, ni le même besoin. Elle ne répondra pas à la même chose que ma sexualité nécessairement. Donc, si on est capable d'identifier quelle est la fonction de ma relation amoureuse et quelle est la fonction de ma sexualité, on peut se rendre compte que, en fait, c'est pas le même motif. Si, par exemple, dans ma relation amoureuse, je cherche... un épanouissement, un accompagnement, du soutien, du réconfort. Et alors que dans ma sexualité, je recherche de nouvelles expériences, une curiosité, une agentivité sexuelle, par exemple.
Ça veut dire quoi, une agentivité?
Agentivité sexuelle, c'est un terme qui a été beaucoup développé autour de la sexualité des femmes, en fait, pour les aider à se réapproprier leur comportement, leur pratique, leur plaisir dans la sexualité, mm-hmm. puisqu'on le sait, pendant longtemps, ils ont été plus assujettis, justement, mm-hmm. au plaisir masculin, notamment, là, plus dans un contexte hétérosexuel. Mais c'est un terme qui a été développé pour, justement, cultiver puis outiller les femmes à se réapproprier ce plaisir et de se dire au final, je suis agente de ma sexualité, okay. Je suis active plutôt que peut-être passive ou assujettie. Donc oui, c'est ça, pour venir à l'idée de la fonction, ça, l'étude fait du sens si ma sexualité a une fonction plus d'élargir mon répertoire, de vivre de nouvelles expériences, ben, je peux réserver ça justement à la place de l'intimité sexuelle. Et si ma relation amoureuse, c'est plus de construire quelque chose avec quelqu'un à long terme, ben, ça répond pas à la même chose.
Non, bien sûr, c'est clair. Mais est-ce que tu penses que... parce que de mon point de vue, parce que je suis pas experte, évidemment, sur ce sujet, enfin, voilà. Mais j'ai l'impression que quand un couple veut être couple ouvert, c'est souvent à la demande l'un des deux. Mais je trouve que c'est rare que les deux soient d'accord. Enfin, en même temps, est-ce que ça crée pas des frustrations au sein d'un couple que l'autre, mettons, accepte bon, ok, tu vas être en couple ouvert, je le fais pour sauver notre couple, mais qui subit un peu la décision. Et puis, est-ce que c'est sain finalement? Enfin, je sais pas.
Exact. Ben, un couple ouvert peut très bien fonctionner, mais comme tu le dis, ça va dépendre du motif de pourquoi on ouvre son couple. Si on l'ouvre pour ne pas perdre l'autre ou parce qu'on a peur que l'autre nous trompe, mais bien sûr qu'il va y avoir une frustration puis un certain ressentiment. Mais si on ouvre le couple parce que tous les deux, on souhaite vivre de nouvelles expériences, on a établi des règles claires dans lesquelles chacun est respecté, ça peut très bien fonctionner. Mais il faut se questionner à la base pourquoi on ouvre le couple. S'il n'y a pas cette réflexion-là, ben peut-être qu'on va le faire un peu, comme tu le nommes, pour suivre un peu les désirs de l'autre. Et souvent, il y a quelqu'un qui va s'oublier là-dedans et... ça va être une question de temps avant qu'on fonce un peu dans un mur, là, je te dirais.
Non, 100%.
Donc, vraiment d'avoir la grande question, pourquoi j'ouvre mon couple? Pour qui? Pourquoi? Comment je le fais? Donc, un peu ces questions de base-là, c'est très bien de les avoir en amont, puis d'établir un dialogue avec l'autre par rapport à ça.
Bah, la communication, je pense que de toute façon, c'est la clé. Mais est-ce que tu penses que cette étude-là et ce qui en ressort, est-ce que c'est une tendance ou tu penses que c'est amené à rester sur le long terme, justement, d'avoir de moins en moins d'exclusivité sexuelle ou que c'est juste quelque chose qui est peut-être temporaire ou ça va s'ancrer dans le temps?
C'est une bonne question. Je pense que ça va un peu s'insérer dans la norme. Donc, je pense que il va peut-être avoir une plus grande flexibilité. Je pense pas qu'il va y avoir un renversement, là, que tout le monde sera non exclusif, mais je pense que c'est des pratiques qui vont être un peu plus communes, puis ça sera moins rigide, du moins.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore la vision peut-être idéale, tu sais, du couple, on se rencontre à 20 ans, on se marie, puis on reste 40 ans ensemble. Mais finalement, c'est peut-être un peu... désillusionné d'avoir cette vision-là. Et puis, finalement, est-ce que c'est peut-être pas mieux d'ouvrir son couple plutôt que de se tromper par derrière et puis mentir et puis créer une relation presque toxique, quoi? Enfin, bon.
Exact. Puis c'est aussi de se dire... on peut vraiment être bien avec quelqu'un à long terme romantiquement, mais notre sexualité, elle évolue aussi à travers ces années-là. Et de vouloir... être à l'affût de comment ma sexualité évolue et bouge dans le temps, ben c'est peut-être un beau privilège que vous vous offrez mutuellement d'en parler. C'est sûr que c'est des discussions qui sont très confrontantes à avoir parce que c'est pas nécessairement confortable de parler à quelqu'un que « ok, peut-être que mon désir n'est plus seulement dirigé vers toi, peut-être que j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences. » Donc c'est inconfortable, mais c'est aussi honnête de se dire que peut-être que ma sexualité, depuis qu'on avait 16 ans ensemble, maintenant, aujourd'hui, à 31 ans, oui, il y a bien des chances qu'elle ait changé, cette sexualité-là. Et surtout, encore une fois, la fonction de la sexualité. Peut-être qu'à 16 ans, elle répondait à un besoin d'amour, de validation, mais peut-être qu'à 31 ans, c'est de l'exploration, c'est une réappropriation de mon corps puis de mon plaisir. Pour d'autres, ça sera... ma sexualité répond à un besoin reproductif. Je veux fonder une famille. Donc peut-être que la personne à ce moment-là sera moins dans la non-exclusivité. Elle va peut-être plus...
Surprise!
Peut-être qu'elle va être plus avec son partenaire, mais c'est bon de se demander ces questions.
Mais alors, en ce sens, est-ce que je pense que c'est encore réaliste de croire à la monogamie?
Je pense que oui. Oui, vraiment. Encore une fois, il faut se demander si on applique ce principe-là, ben c'est selon qui. Est-ce qu'on est vraiment conscient de pourquoi on est un couple monogame ou on est un peu en train de reproduire une séquence un peu en lien avec les normes sociales, ce qu'on a
Notre éducation,
ce qu'on a observé chez nos parents ou dans les films, dans la culture. Il faut juste être peut-être un petit peu plus intentionnel sur pourquoi tu appliques ce modèle-là pour toi. Puis la monogamie, tu peux être dans un couple monogame, mais avec des nuances. C'est pas non plus nécessairement hyper rigide. Il y a beaucoup de complexité qu'on peut y ajouter. C'est pas juste le petit couple qui s'est marié et ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble.
Ouais, c'est vrai. Ça peut être dans la séduction aussi. Enfin, en fait, il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir d'autres rapports sexuels avec d'autres personnes pour être ouvert aussi. Et,
exact.
Ouais, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Et tu penses que... Est-ce que tu as des conseils à partager à des couples qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie d'ouvrir leur couple et qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Est-ce que tu as des petits tips sur... Je ne sais pas s'il y a des choses à mettre en place, ce genre de choses.
Ben, c'est sûr que... je pense qu'il y a de plus en plus maintenant de plateformes ou d'articles ou de médias qui en parlent, des couples ouverts. Donc... des fois, j'ai des clients qui vont me dire qu'ils ont écouté soit des épisodes, justement, de podcasts ou des vidéos ou qui ont lu des articles. Puis, tu sais, ils se font un peu une tête là, sur ça, de savoir, OK, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui peut être problématique? De prendre un peu de l'avance sur ça. Donc, c'est surtout d'être, encore une fois, dans la communication, mais presque d'être trop préventif, je dirais, dans le sens que dans le couple ouvert, il y a beaucoup de comportements ou pratiques qui peuvent être proches de l'irréparable, entre guillemets. Parce que là, c'est sûr, on intègre une nouvelle personne ou un nouveau partenaire. Donc, c'est sûr qu'après, les impacts ou les conséquences peuvent être plus grandes. Donc, quitte à être même un petit peu plus proactif ou préventif, je dirais de prendre de l'avance en amont puis de dire, OK, s'il se passe ça, ou si j'ai à avoir une relation sexuelle avec une autre personne, est-ce que tu veux savoir ou non? Dans quel détail? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est à l'extérieur? Tu sais, d'y aller quand même assez précisément dans les détails. Après, il faut s'écouter, là. Vous n'êtes pas obligé de gérer ça en une soirée non plus.
Ouais.
Mais quand même d'y aller, je dirais, quand même assez explicitement pour savoir ben, de quoi tu as envie ou non. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est là que... Je veux pas dire que c'est irréparable, c'est la fatalité, mais c'est sûr qu'après, c'est peut-être plus difficile à rattraper que si on avait eu la discussion.
L'acte est déjà fait, puis c'est trop tard, et puis il faut avaler ça, que si t'en as parlé avant, bon, au moins, on a mis carte sur table et on en a discuté, quoi.
Exact. Et, je veux dire, c'est comme un peu le consentement, c'est constamment renouvelable, donc c'est pas non plus parce qu'on avait dit notre accord au début que, je dois maintenir ça tout le long. Ça se peut que vous soyez entendus ensemble et que ça faisait votre affaire, mais qu'après coup, vous vous dites, tu sais quoi, ça m'a rendu extrêmement inconfortable, je ne voudrais pas répéter l'expérience,
et
vous vous réajustez. Donc, quand même d'intégrer une flexibilité aussi dans ça.
Et je sais qu'il y a aussi, en plus du couple, enfin, au-delà du couple ouvert aussi, il y a le polyamour. Est-ce que ça, tu as des clients qui viennent te voir et qui sont concernés par ça? Parce que j'en entends aussi beaucoup parler. Enfin, j'ai reçu aussi des gens qui m'écrivent, qui me disent qu'en fait, ils ont plusieurs amoureux.
Oui.
Donc, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je te dirais ça, je suis un peu moins... J'ai moins de clientèle qui est polyamoureuse, mais par contre, de ce que j'ai entendu, ça pouvait très bien fonctionner aussi. De ce que j'ai peut-être plus entendu, c'était des gens qui ont pratiqué le polyamour dans une période de leur vie. Je veux pas nécessairement dire que c'est pas maintenable dans le temps, mais c'est que les gens disaient que c'est une pratique que je suis capable d'insérer à un moment de ma vie, mais je peux retourner à un couple monogame où, admettons, pendant X nombre d'années, ben j'aimais plusieurs personnes à la fois, puis j'étais capable de ça. Ça a bien fonctionné durant cette période. Mais c'est pas quelque chose non plus qui était coulé dans le béton nécessairement.
OK. Ok, non, c'est super intéressant parce que ça aussi, en tout cas, je trouve que quand je vivais en France, vraiment, j'en entendais vraiment rarement parler de ces deux tendances. Donc, ça fait plaisir de pouvoir un peu avoir plus de profondeur sur ça.
Oui.
Et justement, quand on est expatrié, puis en vivant ici, parfois, bah, on est déjà en couple en France, puis on vient ici, puis on vit une relation à distance. Est-ce que toi, tu as des conseils à partager pour, d'un point de vue professionnel, hein, sur, pour faire en sorte que la relation soit un succès, tant d'un point de vue émotionnel que sexuel, parce que c'est vrai qu'à distance, bon, bah, mm-hmm. on partage plus de moments, on se voit plus, bah, on a plus de rapport. Donc, comment on fait pour maintenir un peu cette étincelle?
Oui, ben, c'est sûr que c'est tout un défi. Encore une fois, la communication, là, en ce moment, c'est un peu le seul canal que vous avez, là, la communication. Donc, ça doit être primordial à la relation. S'il n'y a pas de communication, vous n'allez pas vous croiser le soir à la maison. Vous n'allez pas vous voir. Donc, c'est primordial d'avoir une bonne communication. Ce qui aide souvent, c'est vraiment d'avoir une routine, un peu comme si vous habitiez ensemble, mais c'est-à-dire, on fixe les appels. On sait que tous les soirs, par exemple, à 21h ou le matin avant de quitter, on s'appelle. Sinon, c'est facile un peu de négliger ça ou de l'oublier ou de pas trouver le bon moment. Donc, de vraiment réserver un moment qui est spécifique. Et aussi, si vous voyez par intervalle au mois ou au 6 mois, dans la mesure du possible, de le réserver d'avance aussi. D'avoir quelque chose to look forward, c'est...
Ouais, je vois ce que... D'avoir un peu une date, genre on a une date où on va se revoir, on le sait, c'est ce jour-là. Ouais.
Exactement. Ça peut-être aider à tenir le coup, parce que parfois, je sais qu'il y a un certain désespoir, un découragement qui peut s'installer, ça peut être long par moment. Donc, d'avoir un peu toujours ces dates-là auxquelles avoir hâte, ça peut aider. Puis, c'est sûr que... peut-être que tu connais les 5 langages de l'amour.
Oui.
Ben, c'est sûr que là, si le toucher n'est pas présent parce que vous êtes loin, ben, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut peut-être cultiver davantage au niveau des mots d'affirmation. Bon, on ne peut pas passer le temps de qualité non plus, donc il resterait peut-être les cadeaux, ben, en fait, les attentions, puis les services.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ça serait de voir, peut-être que je pourrais... maintenant, avec tout ce qui existe comme service, on peut quand même envoyer des petites attentions, des gestes qui montrent à
Bien
l'autre
sûr.
Que même si on n'est pas physiquement présent, on pense à lui ou à elle. Donc, de peut-être aller un petit peu plus dans ces langages-là qui ne demandent pas à ce qu'on soit présent.
Ah, c'est super intéressant. Toi, je pense aussi que ce qui est bien, c'est aussi d'avoir peut-être une date limite pour se revoir, mais aussi une date de fin de cette distance-là, peut-être pour survivre un peu et se dire que ce sera pas toujours comme ça.
Oui, c'est vrai. Oui. Parce que c'est sûr que quand on sait que c'est temporaire, ça nous aide à tenir le coup. Après, si on voit qu'il n'y a pas nécessairement d'avancement, puis on stagne, c'est vrai que ça peut être décourageant. Donc oui, une date limite un peu de « OK, on sait qu'on a un an à faire, puis après, on se retrouve.
» Et est-ce que toi, tu peux nous partager s'il existe des différences culturelles au niveau de la sexualité, justement, entre, je dis les Québécois, mais ça peut être les Américains, quoi, et les Européens. Est-ce que entre deux continents, tu sais s'il y a des différences culturelles à ce sujet?
Oui, ben un peu comme on parlait tantôt hors micro, ben peut-être, je sais pas tant dans les pratiques sexuelles, mais plus au niveau de la séduction, du dating life, ce qui ressort là un peu de ma clientèle, peut-être pour ceux qui seraient plus européens, ben il y a peut-être plus un peu cette division-là, là. C'est plus genré, encore une fois dans un contexte peut-être plus hétérosexuel, là, au niveau des modes de séduction et de comment on rentre en relation avec l'autre. Peut-être que justement, ce qui ressortait, c'était plus l'homme qui va être entreprenant, qui va faire les premiers pas. Puis je sais que pour certains ici au Québec, ça va être plus partagé.
Ouais.
Oui, la femme va être quand même assez à l'aise de faire les premiers pas, plus entreprenante. Donc, c'est ce qui ressort quand même. Mais au niveau des pratiques sexuelles, c'est vrai que ça, je connais moins par contre.
Ok, bah c'est peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça.
Ouais, peut-être.
Mais en tout cas, ouais, plus dans l'approche de la séduction, toi, c'est ce qu'on t'a ressorti. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, tu penses? Ou genre, pour l'instant, c'était juste un peu la nuance du genre, où il y avait d'autres choses encore?
Ce qui revenait, moi, c'était plus là, dans le contexte de fréquentation, là, d'avoir un petit choc un peu sur le fait que... admettons, si j'entendais des femmes françaises, par exemple, qui étaient ici, qui disaient que c'était étonnant parce qu'elles avaient l'habitude d'adopter un certain schéma un peu dans la séduction, puis de se laisser courtiser ou approcher, mais que ça venait pas nécessairement là. Donc,
c'est vrai. Mais en plus, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai que je trouve, on le constate assez rapidement, que les femmes ici, elles sont plus, elles osent plus. Je sais pas si c'est lié à la confiance en soi ou quoi, mais en tout cas, elles donnent l'impression d'avoir plus confiance en elles et d'oser plus. Et je trouve que c'est bien, dans un sens. Nous, ça nous fait aussi un peu réaliser que, bah oui, pourquoi pas, pourquoi attendre ça. Mm-hmm. Bon, je peux y aller aussi, quoi.
Mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'en France, c'est plus genré ou un petit peu plus...
Peut-être que c'est encore une vision un peu traditionnelle... de l'homme qui doit faire le premier pas. Puis il y a encore cette notion aussi de la galanterie. T'sais, je me dis peut-être que c'est encore des... Je sais pas si c'est historique ou pas, et puis que c'est resté dans les mœurs, on va dire. Même si je pense que ça évolue, bien sûr. Hein. Tout ça, je te dis ça c'est ma vision, mais c'est bien sûr pas celle de tout le monde. Hein. Mais je sais pas, ouais. C'est vrai qu'en tout cas, je pense que c'est peut-être traditionnel. On a encore un peu cette notion. Et puis peut-être la culture, tu sais. C'est vrai que dans les films, tu sais, on voit souvent quand même l'homme faire le premier pas. Alors, comme on grandit avec ce genre de choses, quoi, bah, peut-être que dans notre tête, après, indirectement, on se dit, bon, bah, j'attends mon prince charmant, tu sais, il va arriver comme dans le film, tu sais. Enfin, et du coup, je vais attendre. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm-hmm. Puis peut-être qu'ici, ben, y en a beaucoup que... ils vont se relayer ou se rapprocher de les tendances plus américaines, donc aux États-Unis. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de modèles ou de comparaisons d'hommes et de femmes qui sont vraiment plus équitables, ou est-ce que c'est un petit peu plus... la femme un petit peu plus... qui va plus s'affirmer, peut-être, qui va être un petit peu plus... ouais, c'est ça, qui va plus s'affirmer, qui va... avantage
par... Mais je trouve ça positif. Moi, je trouve ça vraiment bien. Puis, ça, comme tu dis, ça met plus un équilibre entre les genres. Et puis, ben, on y va. Mais est-ce que tu trouves qu'ici, les hommes peuvent faire aussi le premier pas, ou c'est beaucoup la femme, ou il y a un équilibre entre les deux, puis l'homme aussi est capable d'aller chercher une femme?
Ouais, moi, je vois les deux.
OK.
Je vois qu'il y a quand même un équilibre. Mais c'est vrai que si on compare plus France ici, ce que j'entends de la part des clients, c'est ça, qu'il y a comme un petit... un petit choc. Ah, OK, ici aussi... la femme peut autant le faire. Là. Donc, ça nous sort un peu de nos zones de confort. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de se pencher pourquoi. Pourquoi il y a peut-être un peu cette différence ici.
C'est marrant, en tout cas, mais c'est ça. Puis, est-ce que toi, t'aurais des conseils à donner justement à un expatrié ou quelqu'un qui vient d'arriver au Québec et puis qui essaye de s'accommoder à la vie amoureuse et sexuelle d'ici?
Ben, c'est sûr que... peut-être de s'entourer, là, justement, un peu, de fréquenter des endroits où est-ce qu'il y a une belle diversité, où est-ce qu'on est capable de voir un peu les modes de séduction, ou comment les gens entrent en relation, de pas hésiter à sortir un peu, de voir à quoi ça ressemble, d'écouter aussi, soit des podcasts, des ouvrages peut-être un peu plus québécois, là, en guillemets.
Ben, Club Sexu, qui est super,
ouais,
hein?
Oui, Club Sexu, c'est excellent, vraiment. De voir un peu, tu sais, à quoi ça ressemble, tu sais, que ça soit même des fois de regarder des séries ou d'écouter la radio, tu sais, de se donner un peu une idée de c'est quoi un peu l'énergie ou l'ambiance au niveau plus relationnel. Mais c'est sûr que de fréquenter des gens aussi, là, c'est la meilleure chose. Puis d'avoir encore une fois une bonne communication par rapport à ça, c'est important. Mais je pense que peut-être le mieux, c'est ça, c'est de rentrer en relation avec des gens qui n'ont pas ce même bagage.
Ouais, mais justement, est-ce que dans ta clientèle, t'as eu affaire à des gens aussi qui étaient étonnés de la période de fréquentation? Parce que, tu sais, fréquenter des gens, mais nous, en arrivant, ça peut parfois avoir un choc. Bon, je veux pas, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dans le podcast de la fréquentation, mais c'est vrai que c'est quand même une différence. Est-ce que toi, parmi ta clientèle, on t'a déjà fait part de ça, ou c'est pas quelque chose qui finalement revient souvent?
Oui, mais c'est vrai que il y a comme parfois un double tranchant à cette grande ouverture-là. Parce que oui, il y a beaucoup de sujets qui sont davantage réfléchis. On re-questionne les rôles de genre, on re-questionne les modèles amoureux. Mais c'est sûr que ça peut venir avec un genre de double tranchant, où est-ce qu'il peut y avoir un certain néant, où les personnes peuvent avoir de la difficulté à savoir où se positionner, puis ils vont remettre en question plusieurs choses, dont peut-être l'engagement, la vie à deux, la monogamie, comme on disait. Donc pour beaucoup, pour beaucoup de gens, on dirait que je vois une genre de, pas nécessairement un recul, mais certains doutes au niveau de ben, l'exclusivité, l'engagement et même parfois la vulnérabilité. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a comme différents facteurs. D'un côté, peut-être que la fréquentation ici, elle est plus commune parce que les gens, justement, sont plus ouverts, regardent leurs options, sont moins dans un modèle de « OK, maintenant, on est sérieux ». Ils sont un petit peu plus libres à ce niveau-là. Mais j'ai aussi l'impression que cette même découverte, parfois, ça vient avec des nouvelles expériences. Mm-hmm. Et malheureusement, pour certains, ça peut être parfois plus blessant ou plus traumatisant ou peut-être plus isolant qu'on l'aurait souhaité. Donc, ça sème le doute pour certains. Et de ce que je vois, pour ceux qui vont étirer la phase de fréquentation, ben, ça peut être utile de se demander pourquoi. Là. Est-ce que c'est justement plus dans un désir de liberté, de non-conformisme, ou c'est davantage parce que l'engagement, la vulnérabilité me fait peur? Oui. Font peur.
C'est pas forcément contre l'autre personne, en fait, hein, parce qu'on a tendance à se dire « bon, ben, elle veut pas s'engager avec moi, c'est un peu un problème ». Mais en fait, c'est vrai, t'as raison, on assiste tellement à une mutation un peu des différentes pratiques, etc., qu'on a peut-être aussi envie d'être plus curieux, de tester autre chose, et puis de prendre le temps avant de vraiment s'engager, et puis d'être sûr, quoi. C'est peut-être au final plus positif.
Oui, oui, je pense que c'est bien d'avoir ces réflexions-là, de se demander qu'est-ce qui me motive à m'engager en ce moment? Il y a beaucoup de nos comportements qui sont davantage motivés par de la peur que par de l'amour. Donc, beaucoup de gens vont avoir tendance à se mettre en couple davantage par peur. Peur de l'inconnu, peur d'être célibataire, peur d'être seul, peur de retrouver personne. Donc, l'engagement va être très attirant à ce moment-là. Mais pour d'autres, à l'inverse, l'engagement va faire peur parce qu'il y a une peur d'être englouti par l'autre, peur de perdre son identité, peur d'être codépendant, d'être fusionnel. Donc, dans tous les cas, qu'on veut s'engager ou non, c'est juste d'identifier est-ce que en ce moment, je suis davantage motivée par de la peur ou par un choix conscient d'amour propre puis d'intentionnalité.
Ouais, vraiment intéressant. Surtout, je trouve, quand tu arrives un peu à un certain âge, tu sais, parce qu'il faut dealer avec les bagages émotionnels de la personne, parce que, bon, bah, à 30 ans, bon, souvent, on a tous nos expériences, puis nos traumatismes aussi.
Oui.
Donc, parfois, ça fait peur aussi de se réengager en ayant cette dimension-là, de peut-être que je vais souffrir à nouveau et j'ai pas envie.
Oui.
Et c'est ça, je trouve, ça fait peur. Enfin, en tout cas, il faut. Encore une fois, je pense qu'il faut bien communiquer pour connaître un peu le background de la personne et savoir un peu où elle en est émotionnellement, puis ce qu'elle a vécu pour mieux, pas s'adapter, mais tu vois, la comprendre en tout cas.
Et bien, comme tu dis, pour revenir à ta dernière question, surtout en tant qu'expatrié, si tu dates une personne ici au Québec, ben d'en parler justement de ce bagage de vie-là qui est différent, même si probablement qu'on a une certaine compréhension, il y a quand même beaucoup de références et de repères qui sont différents. Ouais. Donc, même là, si, je veux dire, à la base, même si vous partagiez, vous étiez les deux nés en France ou au Québec, vous allez avoir des tempéraments, des personnalités, des familles différentes. Donc, encore plus quand justement vous avez vécu dans deux pays différents, ben, il faut en parler de ces différences-là qui peuvent être peut-être drôle et mignonne au départ, mais qui peuvent peser davantage plus loin dans la relation. Donc, de prendre le temps d'explorer ce bagage de vie-là. Nous, souvent, en thérapie, on va le faire avec les couples. On va garder au moins une séance où est-ce qu'on regarde ce qu'on appelle la famille d'origine, l'historique de vie de chacun des partenaires, puis de voir, en fait, qu'est-ce qui s'est cristallisé comme croyance, comme modèle amoureux, d'explorer, justement, quel était un peu le couple parental, c'est le premier exemple
c'est clair.
De couple.
Ah oui, le modèle des parents, c'est un peu celui sur lequel on va grandir et puis avoir nos repères. Hein.
Exactement. Donc, de ne pas hésiter à vraiment l'explorer, ce bagage de vie-là qui est différent. Et ultimement, ça peut être une très belle force là, pour vous. Mais de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et encore plus dans un contexte d'intimité, il faut en parler. Je veux dire, on va en parler avec des collègues parce que ça va être important, ou on va parler avec la famille. Mais encore plus dans un contexte où est-ce qu'il va y avoir de l'intimité ou de la sexualité, il faut en parler de ces différences-là.
Oui, oui. Est-ce que parmi ta clientèle, tu as beaucoup de couples, justement, qui sont de deux pays différents?
Enfin, qui... Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Surtout dans les enjeux interculturels, on en parle beaucoup de ces différences-là au niveau de l'éducation, de la culture. Parce qu'au final, surtout dans la sexualité, souvent on dit que on reproduit un peu une séquence sexuelle précise. Mais cette séquence-là, elle vient pas de nulle part. T'sais. Elle est largement teintée de où j'ai grandi, qui est entré dans ma vie ou non. Donc, tout c'est la manière dont je m'engage, les comportements, les pratiques que j'ai dans ma sexualité, même si ça peut paraître loin, le lien avec mon pays, mais ça peut avoir un très gros impact. Donc, quand vous arrivez les deux dans le lit, vous n'êtes pas comme un canevas vierge. Là. Vous reproduisez des éléments de votre histoire. Donc oui, ça vaut la peine d'en parler. Et surtout dans les enjeux interculturels, ben, c'est souvent les grandes thématiques, ça va être notamment, oui, la sexualité, mais le rapport à la famille, l'argent, l'éducation,
c'est sûr.
Le temps même aussi. Donc, c'est pas les mêmes référents.
Ouais, c'est clair. Puis, je trouve que, tu sais, ça rajoute des problématiques que d'autres couples n'ont pas forcément. Par exemple, tu sais, je pense à, mettons, un couple franco-québécois. Oui. Bon, ben, t'as ta famille ici au Québec, moi j'ai la mienne en France, tu sais. Je veux dire, est-ce qu'un jour on va déménager en France parce que je veux me rapprocher de ma famille qui vieillit, tu sais, je dis ça comme ça. Ou les enfants, on a des enfants, puis je veux qu'ils aient une éducation dans une école précise en France. Enfin, tu sais. Du coup, ça rajoute tellement de questionnements et puis de... Sur le long terme, parfois, il faut se projeter un peu plus avec quelqu'un qui est pas issu de la même culture que toi pour être sûr qu'elle est prête, enfin... Tu vois, ça rajoute un peu une couche de complications parfois, ou en tout cas plus de communication.
Oui, exactement. C'est y a des défis qui sont propres au couple mixte.
Ouais, exact.
Qu'un couple qui serait de même origine, du même pays, n'aurait pas nécessairement. Donc, il faut en prendre compte. Encore plus, c'est ça, parce qu'on est dans un contexte d'intimité. Donc, si l'autre personne est supposée être notre safe space, notre espace sécuritaire, ben, il faut être transparent sur ces enjeux-là. Puis, comme tu dis, de prendre de l'avance sur ça, puis d'en parler.
Bah, super, franchement, je pense que ça fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser, en tout cas, Annabelle. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à ajouter ou d'autres points que tu voulais m'amener sur cet épisode.
Ben, je pense qu'on a pas mal dit. C'est sûr qu'on était un peu plus en surface, mais peut-être plus approfondir dans le futur.
Bah, avec grand plaisir, en tout cas, tu seras la bienvenue. Moi, c'est sur beaucoup de sujets qui m'intéressent, et puis donc avec plaisir pour s'en reparler.
Merci.
Merci, Annabelle.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour en savoir plus sur les prochains invités et être les premiers informés des nouveaux épisodes. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à m'écrire à unehistoireapart@commercial.gmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.